À Eugène Château, lundi 1er mars 1915. J'ai reçu aujourd'hui en très bon état le colis et je vous remercie bien vivement pour toutes les gâteries dont vous me comblez. J'ai cru un moment que les moltières seraient trop étroites, mais après quelques efforts, j'ai reconnu mon erreur et que cela irait très bien. Pour le reste, tout était parfait. Les œufs sont exquis, les pommes aussi et le chocolat délicieux. Nous avons fait largement honneur aux biscuits en prenant le café, je dis nous, car j'ai fait partager ma joie à mes camarades de popote, vos collègues, puisqu'ils sont nos vagues maîtres. Les jours où l'un de nous reçoit un colis, on ne s'embête généralement pas. Au reste, depuis quelques jours, depuis que je me sens redevenir gaillard, je passe mes journées et mes soirées charmantes en compagnie de mes voisins. Demoro Giafferi est mon plus fidèle camarade. Il abonde en anecdotes et en traits d'esprit. Tout le monde le connaît. Le colonel le garde comme caporal secrétaire et il m'a servi de façon charmante auprès de mon grand chef. D'un autre côté, il m'a présenté à tous les officiers qu'il fréquente, et ils sont légion, en soulignant de façon flatteuse l'admiration qu'il professe pour mon talent, et il a fallu que je fasse venir mes bouquins. On les a lus, et je deviens un commensal de mes voisins les artilleurs, qui, sachant que je ne crache pas devant une bonne bouteille, me convient régulièrement, chaque fois que l'occasion se présente, de remplir ce sacerdoce. Le capitaine Mercier, entre autres, me tient en particulière estime, et demain encore nous devons dîner chez lui pour manger un vieux poulet, ce qui est déjà intéressant, et boire 4 bouteilles de Châteauneuf du Pape, ce qui l'est, à mon avis, infiniment davantage. En somme, maintenant que l'on me connaît et que l'on sait qui je suis, je n'ai plus qu'à me laisser vivre. Sans doute, il faudra donner le coup de chien final et marcher encore sous les balles et les marmites, mais toutes les fatigues préliminaires, si j'ose dire, et tous les emmerdements adjacents, si j'ose redire, me seront épargnés. Et c'est immense. Tu ne saurais te figurer ce que cela me faisait chier au cantonnement de repos de compter les biscuits des poilus ou de vérifier leur nombre de cartouches ou de voir s'ils avaient encore leur plaque d'identité, leur livret individuel ou les poils de cul propres. Maintenant, je suis traité non plus en subalterne mais en camarade et en ami. Le colonel a lu mes livres et son estime est basée sur quelque chose. D'autre part, il sait par les rapports de mes anciens officiers que, dans la tranchée, je n'avais pas peur de mes peines ni de ma peau, et comme lui-même est un brave à 3 poils, je lui suis doublement sympathique. Je t'ai donné quelques indications pour l'envoi de mes cartouches, remêlées à mortier qui les donnera au receveur des postes de Verdun. Comme suscription, Monsieur Demoro Giafferi, caporal au 166e pour Monsieur Pergaud. Il est très peu probable, en effet, que Mortier vienne jusqu'à nous, car nous ne sommes pas à Verdun, tu t'en doutes bien, et je n'ai pas le droit de t'indiquer l'endroit où nous nous battons. Voilà à peu près tout, mon cher vieux. Depuis que je suis ici, je me suis fait confectionner une tenue en drap nouveau, d'un bleu tendre, à faire évanouir des 30 de pucelles. Mais il n'y a plus de pucelles ici, ni même de femmes. Intéressante, d'ailleurs, on n'y pense guère. À Delphine, lundi 1er mars 1915. Il faisait un peu froid hier, et je ne me suis promené qu'une heure avec le capitaine Mercier. Sais-tu ce qu'il préfère, lui et Moreau, dans toute mon œuvre? L'histoire de Fuseline, qu'il met au-dessus de tout, même de Kipling. Le colonel, lui aussi, est de cet avis. Moi, je préfère encore la guerre des boutons. Et vous, mon petit cri-cri, il y a un miracle de Saint-Hubert qui n'est pas mal non plus. Que vous en semble, ô petit critique aimant et juste. À la même, mardi 2 mars 1915. Nous sommes retombés dans l'hiver. Il a neigé ces jours passés, il fait un peu froid, un peu plus froid qu'auparavant. Mais je suis chaudement vêtu, j'ai un bon lit, et quand j'ai froid dans la journée, je n'ai qu'à passer chez nos voisins les bombardiers, comme dit le colonel, pour trouver un bon feu, le thé et un vieux cognac. Me voici gaillard et prêt à foncer dans les luttes futures, comme eût dit ce pauvre Debel. À propos de Debel, j'ai fait revenir son bouquin en même temps que les miens, et je l'ai prêté à Demoro Giafferi. Il en a été absolument ébloui, et ça m'a fait plaisir et confirmé dans l'impression qu'il n'est pas seulement un causeur aimable et un bon camarade, mais un type d'une remarquable intelligence. Je ne dis pas de tout le monde qu'on est intelligent. Hier après-midi, je me préparais à aller faire une promenade avec les vaguemestres. Desmoreau m'a attrapé au passage et nous avons passé l'après-midi en causerie. Enfin, tu vois, mon cher petit, tu aurais tort de te faire de la bile à mon sujet. Nous tuons le temps aussi agréablement que possible, ce qui ne veut pas dire qu'il ne nous pèse pas durement aux épaules. La plaisanterie était amusante au début, disait Martini en nous quittant, mais je trouve que depuis 7 mois qu'elle dure, il serait temps bientôt qu'elle cessât. Pour celle-ci, comme pour les autres, les plus courtes sont les meilleures. À la même, mercredi 3 mars 1915. J'ai profité de mon après-midi d'hier pour aller faire une petite visite à mon collègue et ami Raveton, au village voisin où se rendaient les vaguemestres. Il faisait un temps à ne pas mettre un boche dehors, bourrasque de pluie et de neige, coup de vent et tout ce qui caractérise les heures troubles d'avant-printemps. Malgré cela, ce ne fut pas pénible, j'avais mon caoutchouc et je pouvais me foutre de la neige et du vent. La campagne ne reverdit pas vite tout de même, c'est encore gris avec des raies d'eau qui zèbrent les champs de lames d'argent. Les arbres non plus ne se pressent pas de bourgeonner, mais les oiseaux commencent à revenir, il y a déjà des pinsons, jolis comme des amours, quelques chardonnerets et des bandes d'alouettes et de verdiers. Enfin, on commence à trouver des pissenlits et presque tous les soirs, l'ordinaire s'enrichit d'une plantureuse salade dont on se pourlèche les badigoins, comme dirait Feu Rabelais. Hier soir encore, comme je t'avais dit, je crois, je suis allé dîner avec les officiers d'artillerie. La soirée a été fertile en anecdotes plaisantes et quand nous sommes sortis à 10 heures, il faisait un magnifique clair de lune dont nous avons profité, Moreau et moi, pour aller faire une balade sur la route gelée. Nous avons beaucoup parlé de Paris et de ceux que nous connaissons, de nos relations réciproques. Le jeune Détieu lui a écrit ces jours derniers, il y avait pour moi quelque chose de charmant. Avant tout, il priait Moreau d'insister auprès de son père pour qu'il ne permît pas qu'une existence aussi précieuse que la mienne fût exposée comme elle l'avait été déjà. L'estime et l'admiration qu'il a pour mon talent est véritablement touchante et cette sollicitude à mon égard ne l'est pas moins. Aussi vais-je lui écrire de nouveau en l'assurant qu'il peut compter sur mon expérience et mon affection d'aîné pour guider ses pas dans le marécage littéraire. Il se faut entraider, c'est la loi de la nature, et j'espère ne pas faillir à ce devoir de reconnaissance. Vous voyez, mon cher petit, que tout se présente le mieux du monde pour calmer vos inquiétudes et vous tranquilliser. Même si je revenais, momentanément, comme officier dans une compagnie, on veillera sur moi, et il serait bien absurde que les destins qui semblent me protéger avec tant de zèle ne persistent pas. En attendant, je me repose, et autant qu'on peut être heureux dans cette existence de troupier en campagne, je le suis. Je lis et je dors, j'ai des camarades de l'esprit le plus distingué et le plus fin. Il ne me manque vraiment que votre présence, mon cher amour. Bien souvent, quand mes yeux courent le long des lignes, votre chère image vient s'interposer devant mes yeux, et les mots dansent parce que le souvenir de notre bonheur passé me tourmente jusqu'au fond le plus intime de ma chair et de mon cœur. À la même, jeudi 4 mars 1915. Ce midi, je ne t'envoie que mes baisers du matin et cette photo que j'ai fait faire au cours de mon passage à Verdun. Tu m'y reconnaîtras sans doute, bien qu'elle soit trop retouchée. Ces cochons de photographes croient déchoir s'ils ne vous lustrent le poil. À la même, vendredi 5 mars 1915. Je te disais, mon cher Mitou, que j'avais été invité à dîner hier par le colonel. J'y suis allé, en effet, ce fut très gai et très bien. D'abord, dans l'après-midi, nous étions allés, Moreau et moi, à chercher Renaud, qui devait lui aussi participer à nos agapes. Il faisait un temps adorable de printemps, tiède et presque parfumé. Une vague lassitude dominait tout le monde. On flânait, on rêvait. Les Boches en avaient, eux aussi, oublié de bombarder le village de Renaud, qu'ils arrosent pourtant tous les jours de leurs shrapnels. J'ai retrouvé, au cours de notre promenade, mon ancien lieutenant, passé capitaine, M2B. Merveille. Il n'était plus dégueulasse, mais propre, avec une barbe soigneusement peignée, un pantalon neuf et une tunique sans tache. Nous en étions comme deux ronds de flanc, Moreau et moi. Il a d'ailleurs été avec nous extrêmement aimable. Nous sommes revenus ici juste pour l'heure du dîner auquel assistait le colonel, naturellement, mon chef de bataillon, le capitaine Rouzade, le capitaine Boucher, adjoint au colonel, le capitaine Éric de la première, le lieutenant de Montvert, commandant de la deuxième, mon ancienne compagnie, les lieutenants Romain, Legouy, mes anciens lieutenants, le capitaine Mercier, notre voisin artilleur, le médecin-major Mistarlet, Renaud, chanteur célèbre de l'opéra et sergent téléphoniste, Desmoreaux Diaferi et moi. Le menu était des plus soignés, potage exquis, bouchée à la reine, poulet sauté aux champignons, filet de bœuf, pomme en boulette à je ne sais quoi, salade, langouste avec salade russe. Le tout cuisiné par un des plus renommés maîtres d'hôtel de Brié, Christenac, soldat cuisinier à la deuxième. Je ne te parle pas du dessert abondant et varié. Quant au vin, ordinaire rouge, bordeaux blanc, Saint-Émilion et champagne à flot, café, liqueurs diverses, punch, orangeade pour finir. Jamais je ne vis rien de plus cordial, bien que souffrant, le colonel fut plus gai, plus jeune, plus bout en train que tous. Chacun fut tout de suite à son aise et la conversation, pour gauloise et pimentée qu'elle fût, resta toujours captivante. Au dessert, un certain nombre de jeunes sous-lieutenants, récemment sortis de Saint-Cyr après un an à peine d'école, et quelques autres officiers du cantonnement et des cantonnements voisins, vinrent nous rejoindre et la fête continua. On chanta, on joua du piano jusqu'à 2 heures du matin, après quoi, comme dans Malbrook, chacun s'en fut couché, les uns directement, les autres dont j'étais, après avoir fait un petit tour de promenade digestive. À la même, samedi 6 mars 1915. Hier soir, j'ai accompagné sur la route des tranchées le sergent téléphoniste Nicolas, juge à Bar-le-Duc et conducteur intérimaire de Carcan. Une de ses voitures, accrochée par un chargement de fascines, a culbuté dans le fossé avec cheval et conducteur. Il était ici quand on lui a téléphoné la chose. « Ah, voilà bien ma veine !» s'est-il écrié. « Ça n'arrive qu'à moi !» Il avait un air si comiquement navré que nous avons tenu à l'accompagner, Moreau et moi, pour l'aider d'abord, l'assister de nos encouragements ensuite, et voir la tête qu'il ferait devant son bourrin, les quilles en l'air. Nous n'avons pas eu cette joie, le bourrin était relevé, et nous sommes revenus par une nuit obscure à ne pas voir son doigt devant l'œil. À la même, samedi 6 mars, après-midi. J'ai été un peu interloqué quand tu m'as révélé que ma carte-lettre était parfumée, car nous n'avons guère ici en fait d'odeur fine ou plus fine que les relents des feuillets lorsque le vent s'en mêle. Et puis, à force d'y penser, j'ai trouvé. Ce bon Château et Madame Château m'ont envoyé 2 cahiers de papier savonnette, très parfumés en effet. J'en ai toujours un dans ma poche pour pouvoir me laver si le besoin s'en fait sentir, et j'ai fait voisiner un instant la carte qui t'était destinée avec cette source de parfum suave. À Eugène Château, samedi 6 mars. Si tu voyais les échantillons du beau sexe qui reste ici, la fémie atteint à peu près à leur grâce caduque et ce n'est pas tentant. D'un autre côté, le gouverneur veille avec un soin jaloux sur notre honnêteté conjugale en faisant évacuer toutes les personnes femelles susceptibles de détourner au profit de leur cul des énergies qui ne sont dues qu'à la patrie. Cela ne va pas sans quelques pleurs et redressements de dents, et certains poilus maudissent ce rigorisme qui leur fait peser entre les jambes un sac plus encombrant que celui qu'ils ont sur le dos. Par certains canaux détournés, j'ai pu savoir que la plupart des hommes qui écrivent à leur épouse légitime ou non tombent maintenant dans la lubricité la plus folle. Les uns voient cela et revêtent leurs désirs des images les plus détournées et les plus touchantes, d'autres y vont carrément. Que d'ardeur congénitale évaporée en fumées épistolaires, que de coups de reins perdus pour la puériculture. Après tout, c'est légitime et je comprends ces pauvres bougres. À Delphine, lundi 8 mars 1915. Pour changer un peu aujourd'hui, il neige. Déjà dans la nuit, paraît-il, ça a commencé, et ce matin, c'était tout blanc. Du moins, c'est ce que m'a conté mon ordonnance, le sympathique Jacquet, en venant cirer mes guêtres et décrotter mes souliers. Pour moi, qui ne me suis levé qu'à 10 heures, selon mon habitude, j'ai eu à mon réveil le spectacle un peu attristant d'une campagne grise et d'un ciel de suie. Mais j'ai pensé à toi, et ça m'a mis dans le cœur le coup de soleil qui manquait à ma fenêtre. je me suis levé et, après une toilette un peu plus minutieuse que d'habitude, je suis descendu souhaiter le bonjour à mes hôtes. Depuis quelques jours, le brave père Laguerre ne va pas très bien. Son asthme le fait enrager et il a surtout dans les reins des douleurs terribles qui lui rendent difficile tout mouvement. Nous avons blagué un peu de choses et d'autres. Je leur ai annoncé la prochaine venue de ton colis et ils t'en remercient d'avance. Ils sont contents de m'avoir dans la maison car les soldats abusent beaucoup de leur bonté, envahissant la cuisine et les dévalisant petit à petit sans qu'ils n'osent rien dire. Depuis qu'on me voit là et que j'ai remis à leur place quelques fripouillards dépourvus de scrupules autant que de politesse, cela commence à devenir plus habitable et plus tranquille. Maman Laguerre lave toujours mon linge et de temps en temps, quand ses poulons pondus m'offrent deux œufs frais que je savoure en gourmet. Quand 11 heures arrive, je rejoins à la popote mes camarades de table, les vaguemestres. Ils sont 5 à présent. Les 3 vaguemestres des 3 bataillons, plus 2 vaguemestres auxiliaires, 2 facteurs pour les seconder dans leur travail souvent pénible. Les 3 vaguemestres en pied sont de braves garçons qui marchent depuis le début et qui souvent l'ont échappé belle. Guillaume, celui du 1er bataillon, est instituteur à Brabant-sur-Meuse. Barthélémy, celui du 2e, est entrepreneur à Briey, en pays envahi, et le 3e chemin, qui a remplacé Pierre, tué d'un éclat d'obus, est parisien. Ils sont tous plus jeunes que moi, 25 à 26 ans, et quand le travail est fini, ils rigolent et chahutent comme des gosses. À cela, il faut ajouter le maréchal des logis de hussards royaux, un brave cultivateur des Ardennes, plein de bon sens et souvent d'esprit plus fin malgré son lourd accent de terroir, les Ardennes, la Mason. Le cuistot Tison, un véritable nom de cuisinier, est un gars normand dont les capacités culinaires ne dépassent pas la soupe et la rata, mais qui a acquis dans la confection de ces deux plats élémentaires une remarquable habileté. En outre, il nous fait du bon jus. Il loge dans la maison d'un évacué, le père Antoine, qui était bien le plus sinistre voleur que la Vièvre ait connu. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a dans ce pays des citoyens qui s'entendent à gruger le soldat. 2 ou 3 bonnes femmes, des vieilles sempiternelles, comme dirait Rabelais, putain comme chausson et laide comme 36 poux, sont restées et s'occupent encore à ce commerce lucratif, je parle du café. Pour 4 sous, elles vous servent une innommable boisson faite d'eau bouillie, teintée et douceâtre. Les tables sur lesquelles on boit sont boiteuses, graisseuses, ignobles, et les récipients, verres ou tasses, ne sont guère plus sympathiques comme propreté que les débitantes elles-mêmes. Pour en revenir au père Antoine, il vola tant et tant, vendant 17 ou 20 sous un paquet de 50, que l'autorité militaire s'en émut et l'expédia ailleurs. Je ne sais pas trop ce qu'il retrouvera comme maison, car les obus ont déjà démoli les vitres, et les plumards qui servent de couche aux braves vaguemestres ont été plus ou moins défoncés, non pas parce que des femmes y furent amenées, mais parce qu'on s'y bâtit et qu'on y chahute sans crainte de leur faire du mal. Au demeurant, c'est une boîte obscure et froide. Tous ces sacrés vaseux n'ont pas de poils, ont fait le feu dans d'immenses cheminées, par où l'air froid dégringole en douche dès que les tisons commencent à charbonner, et quand on n'a pas les souliers sur les chenets, on a immédiatement les pieds glacés. Nous ne voyons clair que par un carreau, je veux dire par la place d'un carreau, car la fenêtre a perdu toutes ses vitres, et on a bouché tous les trous avec des sacs cloués, sauf un seul qui est mobile et que l'on enlève durant le jour pour recevoir un peu de la triste lumière que ce ciel terreux nous dispense maigrement. Moreau est à Verdun aujourd'hui. Il est allé plaider au conseil de guerre pour quel casticot qui aura eu la patte trop agile ou le cœur un peu bas placé. Il n'en reviendra que ce soir, et cela me laisse un peu plus de temps disponible, car nous charmons le plus souvent les heures de l'après-midi en interminables causeries. Je dois avouer que la plupart du temps, c'est lui qui tient le crachoir. Hier, j'ai aperçu Renaud, qui était venu faire un tour ici. L'histoire de ce ténor, célèbre, riche, adulé, glorieux, vaut qu'on la connaisse. À 53 ans, droit encore et portant beau sous ses cheveux blancs, il s'est engagé comme simple soldat pour la durée de la campagne. Pendant 3 mois, il a marché comme tout le monde, faisant la guerre comme simple poilu en rase campagne, dans la tranchée, bouffant la gamelle ce qu'il avait, dormant dans un sillon ou dans les granges. Et puis, on l'a remarqué tout de même, et on a jugé qu'à son âge et par le bel exemple qu'il avait donné, il avait suffisamment fait son devoir. On l'a nommé caporal, puis sergent, et parce qu'il avait de la voix sans doute, on lui a confié le téléphone dans un petit bourg des environs, bombardé tous les jours, et dont il ne reste plus que 5 ou 6 maisons debout, et encore, dans quel état. Aussi, comme il a chanté déjà à quelques représentations organisées par les poilus, il faut voir de quelle popularité il jouit là-bas et dans les pays des alentours. Comme il a beaucoup vu et beaucoup retenu, sa conversation, calme, pondérée et joyeuse, a un charme tout particulier, et nous aimons beaucoup, après une petite fête de famille, lui faire un brin de reconduite jusqu'à sa cahute, 2 fois déjà percée par les marmites et 2 fois réparée tant bien que mal. Le bruit sinistre continue à courir, que nous allons être privés un certain temps de correspondance, et cela n'amuse personne. Il paraîtrait, d'après certains tuyaux, plus ou moins crevables d'ailleurs, que ce serait affiché à Paris. Je veux croire que ce n'est guère possible. En tout cas, cela n'aurait aucun rapport avec un investissement, car nous tenons bon de tous côtés par ici, et nous songeons plutôt à avancer qu'à reculer. Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas être en souci, ma chérie, si d'aventure cela venait à arriver. À la même, mardi 9 mars 1915. Ton colis est arrivé hier soir, après 4 jours de voyage seulement. Tout y était en très bon état, le flacon pas cassé, les bottines bien cirées avec leur cargaison, l'une de saucisses et l'autre de camphre, et les divers petits paquets dont j'ai effectué immédiatement la répartition. Je n'ai pas besoin de te dire combien de remerciements t'envoie la bonne mère Laguerre. Du coup, ces poules ne vont plus pondre que pour moi. Quant au reste, le pain d'épices offert à la popote commune a fait les délices de tous. Le beurre est mis de côté pour cuire mes œufs. La saucisse, je la garde pour manger à 4 heures avec mon pain. Le chocolat, pour le petit déjeuner du matin. Quant à l'agneau, je me réserve de la faire goûter à mes voisins, les officiers d'artillerie, qui ont déjà été si gentils avec moi et m'invitent tous les jours à prendre le thé, sans compter les dîners auxquels je suis également souvent convié. Et comme une joie n'arrive jamais seule, le même jour m'arrivait un autre colis de Madame Descaves, contenant une paire de chaussettes fines et chaudes, un gros morceau de pain d'épices, potin, et une boîte de gelée de pommes, et encore du chocolat. J'ai mis le tout à la popote pour l'amélioration de l'ordinaire. Comme ça, les braves camarades des pays envahis, Guillaume, Barthélemy et Royaux, qui ne peuvent plus rien recevoir, profitent un peu des douceurs dont tu me combles. À la même, mardi 9 mars 1915. Je ne voulais pas t'écrire une deuxième lettre aujourd'hui, mais je suis obligé tout de même de le faire. Je suis nommé sous-lieutenant à partir d'aujourd'hui, et je suis bien content. Je ne crois d'ailleurs pas que je retournerai aux tranchées. De Moreau vient de me dire que le lieutenant porte-drapeau venait d'être affecté à un autre poste et qu'il serait possible qu'on me confie ce soin. Comme tel, je resterai ici jusqu'au jour où l'on avancerait et où, naturellement, je marche comme tout le monde avec mon emblème. Jusqu'à présent, cette situation a été une situation de tout repos. Rien de plus heureux ne pourrait m'advenir. Si cela va, tu en seras informé demain ou après-demain. Je crois que MG en parlera ce soir même au colonel. Ma chérie, je suis bien heureux. Soyez contents là-bas, tous aussi, et buvez une bonne vieille bouteille à la santé de la France et de votre grand qui vous aime et vous embrasse de tout son cœur. À la même, le 10 mars 1915. Mon affectation est à peu près fixée, tout au moins provisoirement. Il manque des lieutenants dans les compagnies, et je devais aller à la 7e, mais j'ai pu permuter avec un collègue, et c'est à la 2e, c'est-à-dire à mon ancienne compagnie, que je retournerai. Je suis donc pour 4 jours encore au repos ici. Ensuite, j'irai aux tranchées, mais plus comme avant. J'aurai un bon abri, un cuisinier extraordinaire qui nous fait des plats exquis, d'excellents chefs, monsieur de Montvert, le lieutenant qui commande la compagnie, un garçon extrêmement poli, et monsieur Romain, l'autre sous-lieutenant, délicieux musicien. En outre, j'aurai l'avantage de suivre le colonel et probablement de manger avec lui. Ne vous faites pas de mauvais sang. Les tranchées nouvelles, occupées par la compagnie, sont extrêmement tranquilles. Pas de bombardement à craindre, et souvent pas un coup de fusil. Depuis 1 mois qu'on y va, il n'y a pas eu la moindre égratignure pour aucun poilu. À Marcel Martinet, jeudi 11 mars. Je viens de vivre 1 mois comme un pacha. Je veux dire que je jouissais à peu près du confort relatif qu'on peut espérer trouver en campagne. Un lit, une table à peu près, et pas de marmite à redouter. J'en ai profité pour me remettre d'aplomb. Je commençais à en avoir besoin et à filer un mauvais coton, mais j'ai déjà dû te dire cela dans une précédente épître. L'amitié de mes voisins, les officiers d'artillerie, m'était précieuse également, car je trouvais chez eux fort souvent un ordinaire très amélioré, du pinard en abondance et moult liqueurs plus ou moins alcooliques, dont tu sais que mes amygdales semi-bourguignonnes ne font pas fi. Tout ça va changer un peu, car j'ai appris hier que j'étais nommé sous-lieutenant à la date du 4 mars. Du coup, je repars aux tranchées, comme jadis, mais avec une légère amélioration à mon sort d'autrefois. Aucune de ces besognes ennuyeuses et rebutantes, revues de pieds et de sous-pieds, un abri confortable, un bras zéro, un ordonnance pour décrotter mes bottes et mes effets, et 400 francs par mois environ pour la période d'hiver. Cela vaut mieux que ma solde journalière de 1 franc 72 comme sergent ou de 3 francs 44 de juteux. Ajoute à cela que la compagnie à laquelle je suis affecté, la deuxième, mon ancienne compagnie, possède un maître-queue émérite qui cuisine pour les officiers des petits plats remarquables. Par ces temps de continence forcenée où les jouissances de la gueule sont tout ce qui nous reste, tu juges combien un citoyen de ce genre est précieux pour une popote. Pendant le mois que je viens de passer, j'ai eu pour compagnon et ami des Moreaux Jaffery, qui est le garçon le plus serviable et le plus amusant compère que j'ai connu ici. Chaque soir, au clair de lune, ou par l'obscurité suropaque des nuits du Vièvre, nous faisions de longues balades digestives et philosophiques, au cours desquelles, d'ailleurs, nous racontions plus d'histoires salées que d'autres choses. Il est parti avant-hier, assez gravement blessé, à la suite d'une visite aux tranchées, où il était allé en volontaire essayer l'emploi de certains explosifs anglais qu'il devait lancer sur les tranchées Boche à 50 mètres de l'endroit où il était. Son départ a fait un vide et je suis presque content, encore que le temps ne soit pas ce qu'il y a de plus beau, de retourner aux tranchées pour ne pas trop m'ennuyer. On se rouille ici, mon vieux. J'ai à peine lu quelques bouquins durant ce mois. J'ai à peine répondu aux lettres que je recevais, je n'ai pas écrit une ligne, bien que j'ai rapporté de V un ample cahier cartonné sur lequel je m'étais quasi promis de noter quelques chapitres d'un roman futur ou de jeter quelques nouvelles. Jusque à quand cela va-t-il durer? On espère qu'avec les beaux jours, il y aura quelque chose. Nos poilus bien aux mains ont un moral excellent. Dame, ils sont nourris comme des princes et quand le ventre est plein, on en fait ce qu'on veut. Le patriotisme, au fond, c'est un peu une question de tripes à remplir. En attendant, on aimerait bien vider autre chose. C'est effarant ce qu'on arrive à dire par carte postale. Les époux s'embrassent à bouche que veux-tu, et il paraîtrait que dans les lettres, il n'est pas un mari qui ne fasse à sa femme des protestations véhémentes et d'une précision érotique inquiétante. C'est un phénomène curieux. Si jamais on entrait en Allemagne, je crois qu'il serait bien difficile d'empêcher les poilus de rendre aux Gretchen le sperme que leurs cousins et fiancés ont semé chez nous, alors qu'ils n'avaient pas les mêmes raisons d'être enragés que les nôtres. Que devient Master Toto, que ces petites considérations ne tourmentent plus? J'ai envoyé à ma femme les dessins que tu avais faits de lui. Elle les a trouvés très ressemblants et tu peux considérer comme définitif ce jugement auquel je souscris sans restriction. J'espère que la grenouille va bien et qu'elle continue à faire bon ménage avec ce poilu inoffensif. Et le jeune Jean Daniel, et vous deux, j'attends une longue lettre de toi, mon cher vieux. À Delphine, jeudi 11 mars 1915. Cette nuit, je me suis réveillé. Des souris et des rats se livraient sur le plancher de ma chambre à une telle bataille et faisaient un tel potin que je croyais que le plafond ou quelques pans de mur s'écroulaient. Un jet de lumière de ma lampe électrique a fichu les deux camps en déroute et c'était extrêmement comique cette fuite éperdue à travers la chambre et cette ruée vers les trous. Le chat de la maison n'y suffira pas. Certainement, on n'a jamais vu tant de vermine. À la même, vendredi 12 mars 1915. J'ai fait mon entrée hier dans ma nouvelle famille. Je veux dire que j'ai mangé avec les officiers de la deuxième compagnie qui m'ont reçu le mieux du monde, en amis. Notre camarade Romain nous joue du piano presque tout le temps, et comme il est très musicien et qu'il joue admirablement, les heures de repos sont une sorte d'enchantement perpétuel. La cuisine y est délectable et on ne s'embête pas avec ces joyeux jeunes gens qui ont toujours la blague à la bouche et le sourire aux lèvres. Le poste que je vais occuper est des plus calmes. Il paraît, je me suis renseigné, qu'il y a pour le chef de peloton un abri somptueux avec de la paille en abondance et un brasero perpétuel. On y lit, on y mange, on y dort en paix, encore que les boches soient à 500 mètres en avant. Léger m'écrit, il est au front où il a bien failli être tué, il s'en est tiré avec quelques petites blessures peu graves. Là-bas, il avait pour camarade le secrétaire du directeur propriétaire du grand journal anglais, le Daily Mail. Ce jeune écrivain a reçu des nouvelles de son patron qui lui affirmait en propres termes que pour fin avril, la campagne serait terminée, les Allemands étant à bout au point de vue économique. Si cela pouvait être exact. À la même, mardi 13 mars. Aujourd'hui, j'ai mis un peu d'ordre dans ma cantine, j'ai rangé quelques petites affaires, j'ai cousu sur mes manches de capote mes petits bouts de galons de sous-lieutenant, et 11h30 étant arrivé, je m'en suis venu à la popote où déjà le lieutenant Romain jouait au piano un air de Tannhäuser. Le matin, mon ordonnance m'avait apporté mon café au lit avec une tranche de pain grillé. Notre popote continue à être somptueuse. Nous mangeons comme des princes et nous avons toujours après le café notre petit verre de bénédictine ou de cognac, de bon cognac. Aujourd'hui et hier aussi, le temps s'est remis au beau, le soleil s'est montré, les routes se sont séchées. Il faisait chaud, il faisait bon et j'aurais bien voulu t'avoir à mes côtés. À la même, mardi 15 mars 1915. Je suis heureux de te sentir contente et de savoir que ma photo t'est parvenue enfin. Elle n'est pas extraordinaire, évidemment, et je lui préférerais la moindre épreuve d'amateur avec tous ses défauts, mais avec sa fidélité. Vieilli, je le suis peut-être un peu plus qu'il ne paraît, et mes cheveux ont encore grisonné. Mais je suis toujours aussi jeune de caractère et surtout aussi amoureux de ma femme bien-aimée. Par moments, quand nous sommes tranquilles, et nous le sommes assez souvent, il ne me semble pas que c'est la guerre. Nous faisons simplement une partie de plein air, un peu longue toutefois, et avec beaucoup d'eau. J'ai retrouvé hier soir les vieux chemins que je suivais il y a un mois. Ils sont un peu plus défoncés, plus raboteux qu'avant, mais il y avait moins de boue que je ne pensais. Nous avons marché par un temps très calme et très doux. Mon peloton était en réserve et nous avons gagné nos abris au village sans recevoir une balle ni entendre un seul ronflement de marmite. J'ai dormi comme un prince sur un matelas posé sur deux claies, lesquelles reposaient elles-mêmes sur deux poutrelles isolantes. Nous étions dans une petite chambre à trois officiers, une des rares qui reste encore dans ce village démoli. J'avais un édredon en plus de ma couverture, et je n'ai pas songé le moins du monde à avoir froid, d'autant qu'il y avait dans la cheminée un petit feu de bois qui achevait lentement de brûler. Ce qui m'a le plus ennuyé au début, ce sont les souris. Il y en a des légions. Elles courent, trottent, grignotent, crient perpétuellement. Je crois que mon matelas en héberge deux ou trois familles. Toute la nuit, j'ai entendu le remue-ménage. Elles me frôlaient, me trottaient sur le ventre, me passaient sous le nez, peureuses et fuyantes dès que je faisais le moindre mouvement. Je me suis vite apprivoisé à elles et elles à moi, et j'ai pris mon parti de dormir en paix pendant qu'elles vaqueraient à leur petite besogne. Quelques crapouilles aux boches ont bien éclaté, par-ci, par-là, sur le village, mais comme ils n'ont jamais tué personne, aucun poilu n'y fait la moindre attention, et on circule comme si de rien n'était. À la même, mardi 16 mars 1915, Q2 Sud devant. Chère petite aimée lointaine, comme j'ai pensé à toi cette nuit dans mon abri solide, seul auprès d'un tiède brasero qui m'engourdissait délicieusement après les fatigues de l'installation. Elle est vraiment confortable, cette tranchée, et l'on n'y patauge plus, les pattes dans l'eau et dans la boue. Et s'il pleut, les abris peuvent braver la flotte avec leurs toits de liège et de tôle. Malgré quelques rafales de mitrailleuses qui n'ont pas troublé ma sérénité, j'ai donc bien dormi toute la nuit d'abord et une partie de la journée ensuite. J'ai bien mangé, bien bu. J'avais en plus du jus matinal un petit repas froid que m'a apporté le cuisinier et qui comprenait du saucisson, un morceau de viande froide, du fromage, des gâteaux, une orange et une chopine de vin blanc. Ce soir, je vais dîner au cantonnement et m'envoyer un repas chaud qui sera plus substantiel et plus abondant. Il a fait une journée délicieuse d'avant-printemps, les alouettes chantaient, des bandes de petits oiseaux passaient dans les grondements du canon, et c'était bizarre et joyeux, et un peu triste aussi. Si ce n'était le souci dans lequel je suis sûr tu vis, je serais heureux d'être revenu à la tranchée parce que les journées et les semaines ont l'air de couler plus vite. À la même, mercredi 17 mars. En rentrant hier soir de la tranchée par une soirée tiède et des plus calmes, j'ai trouvé une bonne lettre de vous, mon cher petit, et je l'ai dévorée tout en mangeant un excellent repas. Les officiers de la première et de la onzième étaient avec nous à table. Quel garçon charmant, plein de bonne humeur et d'entrain. On mange et on boit bien, on rit et on plaisante. J'ai bien dormi dans la cave de l'école où j'ai retrouvé d'autres camarades aussi charmants et le docteur Vidal, professeur à la faculté de médecine et qui de plus, je l'ai appris après, est co-directeur du journal. J'ai parlé de sa feuille et en faisant une critique très franche et très correcte d'ailleurs. Heureusement que je ne suis pas allé trop loin. Quelle journée délicieuse et quel beau soleil il fait. Cela nous met en joie et les poilus aussi. Personne dans les caves et tout le monde est dehors. Les poilus jouent au bouchon ou au kiné et c'est au moins pittoresque parmi les ruines de toutes sortes alors que tonne le 75 et que les crapouilles aux boches envoient en réponse quelques salves aussi rageuses qu'impuissantes. Ma bien-aimée, qu'il ferait bon se promener aux bras l'un de l'autre dans quelques quartiers du bois de l'Andresse. À Lucien Descaves, mars 1915. Vous savez avec quelle ardeur je suis parti. Pacifique et antimilitariste, je ne voulais pas plus de la botte du Kaiser que de n'importe quelle botte éperonnée sur mon pays. Je défendais ce vieil esprit pour lequel il me semble avoir déjà combattu par la plume. J'étais disposé à oublier tout, à passer sur tout, persuadé que dans le danger tout se fondrait. Je me battrais, certes, avec la même énergie qu'auparavant, mais si j'ai le bonheur d'en revenir, ce sera, je crois, plus antimilitariste encore qu'avant mon départ. C'est dans la souffrance, dans la promiscuité douloureuse, que l'on découvre bien les bas-fonds de l'âme humaine avec ses recoins de crasse et d'égoïsme, et j'ai pu jeter la sonde dans bien des cours. Mon Dieu, il y a du bon, évidemment, et rien n'est désespéré, mais les hauts comme les bas ont leur saleté. Que doit être l'Allemagne militariste? Quel gigantesque fumier, quelle pourriture morale! Allons-y jusqu'au bout et jetons bas tout cela. Je crois vraiment que c'est l'œuvre de 93 que nous continuons. Dommage qu'il ne suffise pas d'avoir du cœur au ventre pour triompher. À Marcel Martinet, dimanche 21 mars. Merci de tout cœur, mon cher vieux, de ta bonne et réconfortante lettre. Nous avons vécu les 18, 19 et 20 des heures inoubliables et terribles. Nous avons attaqué la tranchée Boche après une insuffisante préparation d'artillerie, et deux de nos compagnies se sont fait héroïquement faucher. J'étais là, prêt à les soutenir avec mon peloton. Nous avions déjà fait sous la mitraille et les balles deux bonds en avant, et nous étions en première ligne, prêts à foncer, quand l'ordre de faire cesser la boucherie est arrivé. Dans cette marche en avant, j'avais perdu 8 hommes tués et 11 blessés. Les balles me sifflaient aux oreilles et 3 obus m'ont éclaté devant le nez, me brûlant les yeux sans que je sois touché. On ne pensait pas au danger, ni à rien. On ne songeait qu'à bondir. L'aspect du champ de bataille est effrayant. Devant nous, entre le réseau Boche, des cadavres pendaient, des blessés se traînaient, d'autres se plaignaient. Et la nuit tragique, avec un soleil rouge, est tombée là-dessus. Il s'est mis à pleuvoir, où on marchait dans des mares de sang avec des éclats de cervelle. Jamais je n'oublierai ça. Et la nuit est tombée, illuminée par les fusées Boche, craignant une nouvelle attaque. On ne pouvait mettre le nez au-dessus du parapet sans entendre siffler les balles. Un de mes sergents a été tué à mes côtés, d'une balle en plein front. J'ai continué quand même à regarder, car il fallait observer à tout prix, et je n'ai rien reçu. Question de veine, mon vieux. Peut-être recommencera-t-on demain. Ah, si j'en reviens, j'aurai une fière veine. Ça ne fait rien, mon vieux. Gardons bon espoir. Je tâcherai de t'écrire d'ici quelques jours. Embrasse bien pour moi la petite grenouille et Jean Daniel, et fourre un peu ta main dans les poils de Toto Chat. Ne va pas croire que je vais te donner des conseils obscènes. Je vous embrasse tous deux de tout cœur. À Eugène Château, 21 mars 1915. J'ai beaucoup à faire et ces temps-ci, nous venons de vivre 2 ou 3 journées inoubliables et terribles de bataille. Je n'en ai pas parlé à Delphine, sinon de façon très vague, en lui laissant croire que je n'avais couru aucun danger, alors qu'au contraire, j'ai vu la mort de bien près. J'ai eu 8 hommes tués dans mon peloton, dont l'adjudant et 2 sergents. Le champ de bataille avait quelque chose de grandiose et de terrible, avec ses morts et ses blessés qui râlaient, de la cervelle, des caillots de sang, des mares de sang, de la boue. Pour l'heure, je ne puis rien fixer, mais ces sacrés boches sont de rudes soldats et terriblement fortifiés. Mes hommes ont été admirables. Ce qui m'embêtait le plus, c'était de me lancer à l'assaut avec, pour toute arme, ma canne et un revolver sans cartouche. Impossible d'en trouver, et demain je puis en avoir besoin. Je prendrai un fusil, comme mes hommes, pour me lancer sur la tranchée boche. Si une photo que j'ai fait faire à Verdun lors de mon passage quand j'étais adjudant, elles sont rares. Garde-la en souvenir de moi, car je ne me fais pas d'illusions. Si nous réattaquons, j'ai 5 chances contre 1 d'y laisser ma peau. Au revoir, mon cher vieux. Fais-moi l'honneur de penser que, si j'étais un peu ému à la veille du combat, au moment de partir, à la tête de mes poilus, j'y allais comme à une fête, et eux aussi. Je t'embrasse de tout mon cœur, toi, ta femme et ta gosse. À Michel Puy, dimanche 21 mars. Je viens de recevoir Numa Roumestan, que j'emporterai dans mon sac pour lire aux heures d'accalmie. Attendez un peu avant de m'envoyer des lettres de mon moulin, car je ne sais trop s'il m'est encore permis le long espoir et les vastes pensées. Nous avons de rudes adversaires devant nous et formidablement retranchés. Ils ne passeront pas, c'est entendu, mais nous y resterons sans doute tous si nous voulons leur reprendre les 200 mètres de terrain qui séparent les 2 tranchées. Ça ne fait rien, mon vieux, le moral reste bon et le corps solide. Je vous embrasse bien affectueusement tous deux. À Delphine, dimanche 21 mars 1915. Enfin, me voici confortablement installé dans un fauteuil de la maison Wolfram, un vieux professeur d'allemand de la faculté de Paris qui a eu le bon esprit, au début des hostilités, de quitter sa maison pour se réfugier à l'intérieur, son titre d'Alsacien lui faisant redouter des représailles boches en cas d'invasion. 2 bonnes nuits m'ont bien remis d'aplomb. Non pas que je fusse absolument éreinté, mais après 2 jours et 2 nuits de veille et d'émotions un peu fortes, j'avais tout de même besoin de repos. Nous avons attaqué la ligne ennemie qui se trouvait devant nous, et pendant que nous les occupions avec une bousillade sérieuse d'artillerie et quelques démonstrations comme fusillades, on progressait par ailleurs. Nous sommes restés sur nos positions et nous avons perdu 2 hommes. Et à présent, la vieille vie d'avant va reprendre, car je ne crois pas, sans de sérieuses préparations de grosses artilleries, qu'on puisse les mettre facilement hors de leurs tranchées. La préparation d'artillerie était cependant épatante. Terrés dans nos abris, nous la suivions d'un œil ému, sur tous les points en même temps, nos 75 pleuvaient, et l'horizon était une ceinture de fumée noire et de feu. Malheureusement, les tranchées boches sont de vraies forteresses avec des rails, des rondins, de la terre, et je ne crois pas que nous y ayons fait de brèches sérieuses, car ils ont continué à tirer dès que notre 75 s'est tue. Mes poilus ont été admirables de courage, d'audace et de sang-froid, et le colonel était rudement content de son régiment. Au milieu de tout cela, ma bonne petite chérie, vos gentes lettres me parvenaient et je puisais dans votre amour toutes les forces dont j'avais besoin pour tenir jusqu'au bout. J'ai reçu ma nomination officielle, confirmée par décision ministérielle du 9, parue le 15 au journal officiel. À la même, lundi 22 mars. Nous sommes encore au repos, on ne sait pour combien de temps. Peut-être regagnerons-nous ce soir nos vieilles tranchées, très confortables maintenant, où l'on dort tranquille malgré les crapouillots et autres produits « made in Germany ». Les hommes sont gais, il fait soleil et ils jouent au sou sur le seuil des portes en rentrant seulement dès qu'apparaît un aéroboche. À Lucien Descaves, 22 mars 1915. Je viens de vivre quelques journées inoubliables. Le 19, on nous a lancé à l'assaut des tranchées boches formidablement retranchées sur lesquelles l'artillerie, malgré une bousillade furieuse, n'avait aucun effet. J'ai vu tomber à mes côtés quantité de braves dont le sacrifice héroïque méritait mieux que ça. Au demeurant, c'était une opération stupide à tout point de vue. Mais il fallait sans doute une 3e étoile au con sinistre qui commente la division de marche et qui a nom B de M. Je vous donne là l'opinion de tout le régiment qui, sans rien dire, a obéi comme il devait, se faisant hacher par les mitrailleuses et les marmites. Comment ai-je pu passer au travers? Je l'ignore. Mais je n'oublierai jamais ce champ de bataille tragique, les morts, les blessés, les mares de sang, les fragments de cervelle, les plaintes, la nuit noire illuminée de fusées et le 75 achevant nos blessés, accrochés au fil de fer qui nous sépare des lignes ennemies. Ça va recommencer demain, mais on ne passera que sur nos cadavres. Je suis aussi sûr de mes poilus que de moi-même. À Delphine, mardi 23 mars 1915. Tu vas recevoir sous peu un petit, tout petit paquet recommandé, un souvenir de la guerre. C'est une bague fabriquée par le maréchal Ferrand du 59e d'artillerie avec la fusée en aluminium des obus allemands. C'est le bijou de circonstance. Le lieutenant V, qui commande la 29e batterie, me l'a offert. J'espère qu'il arrivera là-bas sans encombre. La fusée de l'obus devait être en cuivre, mais ces pauvres boches, n'ayant plus assez de ce précieux métal, se servent d'aluminium. Et c'est extrêmement amusant, car comme on ne redoute guère leur marmite de 77, les poilus guettent l'arrivée de l'obus pour se précipiter sur la fusée encore toute chaude et s'en servir pour faire ce genre de bijouterie, fruste un peu, mais non dépourvue de lignes ni d'élégance. Je regrette beaucoup le départ de Desmoreaux, encore que j'ai parmi les jeunes officiers du régiment de délicieux camarades. Beaucoup sont de petits Saint-Cyriens venus après un an d'école ou même simplement reçus sans y être entrés. Ils sont crânes comme tout et d'une bonne humeur communicative. Ils chahutent comme des gosses qu'ils sont, ce qui n'empêche pas que l'un d'eux, Duzeau, qui n'a pas 20 ans, a déjà la croix d'honneur et que d'autres la méritent. Ce matin, tu ne devineras pas où je suis allé. À la messe, oui, il y avait un service funèbre pour les morts du régiment, et je n'ai pas trouvé ridicule d'aller honorer nos morts, même de cette façon. C'était assez pittoresque, ces troupiers agenouillés devant un catafalque enveloppé de drapeaux. L'église de M est d'ailleurs insignifiante, imagerie de Saint-Sulpice et Coyonnade. À Edmond-Rocher, vendredi 26 mars. Merci de ta carte, je suis heureux de te savoir à l'abri et tranquille, moi qui ai repris la vie aventureuse du poilu des tranchées de première ligne. Dès ma rentrée, j'ai failli laisser ma peau, le premier soir d'ailleurs, où une rafale de mitrailleuses m'a copieusement arrosé, et le 18 ensuite, lors d'une attaque, où j'ai vu tomber, tué à mes côtés, 8 de mes meilleurs soldats, dont un adjudant et 2 sergents, et 12 poilus blessés. Je garderai longtemps sous mes yeux le souvenir de cette vision tragique, un champ de bataille ravagé de coups de canon sur lesquels se couche le soleil rouge, un cirque de sang. Crois bien, cher vieux, que j'ai gardé dans cette occasion tout le sang-froid et toute l'énergie que tu me connais. Mes hommes d'ailleurs ont été admirables. Quelle belle race, et j'étais fier et content de marcher à la tête de tels bougres. Ça va toujours très bien, tout point de vue, c'est seulement un peu long. Au revoir, cher vieux, écris-moi plus longuement si tu disposes de quelques loisirs. À Delphine, vendredi 26 mars 1915. Hier, je n'ai pu t'envoyer qu'une toute petite carte. J'étais dans la tranchée P3, à 200 mètres des boches, qui d'ailleurs, à part quelques obus, nous ont fichu la paix. Il a plu, mais je me suis tenu à l'abri, et si j'ai un tout petit peu eu froid aux pieds, ce n'est rien en comparaison de cet hiver. Nous avons été relevés de bonne heure vers 8h30 du soir et nous sommes venus nous installer dans notre cave, une cave très bien où nous avons un poêle, 2 sommiers avec des matelas et des édredons où nous avons reposé le mieux du monde jusqu'à 11h du matin. Il y a une pompe et un puits dans la maison, ce qui nous a permis de faire un brin de toilette complète. À Michel Puy, mardi 30 mars. Rassurez-vous, mes bien chers amis, j'ai passé entre les balles encore une fois, et j'espère bien que nous allons quelque temps être tranquilles. Non pas que nous nous reposions, au contraire, nous faisons même des jours de tranchées supplémentaires. Mais après une rude frottée, les boches nous foutent une paix royale, et nous avons passé la journée d'hier sans un coup de fusil. Seuls quelques 77 sont venus éclater à quelques mètres de là, sans danger pour personne. Si vous voulez m'envoyer Fromont Jeune, Iris Leur l'aîné ou David Copperfield, je les lirai avec plaisir. J'ai relu dernièrement ceux dont vous me parliez. J'ai goûté à lire Numaru Mestan une vraie jouissance. Nous n'en avons plus guère de ce genre, il faut savoir s'en contenter philosophiquement. Au revoir, chers amis, gardons bon espoir et souhaitons que ce ne soit pas trop long. à Delphine, mardi 30 mars 1915. Maintenant, la vie normale a repris, les grands dangers sont finis. On s'en va tous les deux jours dans son petit coin de tranchée, et tous les deux jours, on vient recoucher sur les matelas dans les caves du village. Mais nous avons vécu des jours et des nuits extraordinaires, tragiques et terribles. Tant qu'il y a eu du danger, je n'ai pas voulu t'en parler, mais maintenant que c'est fini, je puis un peu m'épancher dans ton sein. À deux reprises, nous avons attaqué les tranchées ennemies devant nous. La première fois, c'était le 18 et la dernière, le 27. Résultat, néant. 700 poilus hors de combat, dont 250 morts, 350 blessés et environ 100 disparus. Ça a été une opération ridicule, d'autant que nous sommes à la pointe extrême du front, que la position que l'état-major et la division voulaient conquérir n'offre aucun intérêt stratégique et qu'il est impossible de s'y maintenir. La meilleure preuve, c'est qu'après avoir occupé les tranchées ennemies, nous avons dû, devant des forces supérieures, les évacuer sous peine d'y rester tous tués, blessés ou prisonniers. Pourtant, avec quel élan nous y allions tous, les officiers comme les hommes. Commençons par le 18. Il faisait un beau soleil, nous avions passé la nuit dans les tranchées et nous étions venus prendre au petit jour nos positions d'attaque, moi avec ma section un peu en arrière de la tranchée de première ligne où je devais me porter à la tête de mes hommes sitôt l'attaque déclenchée. Jusqu'à 3 heures, on resta terré, attendant plein d'espoir. Puis le coup de canon annonçant le bombardement des tranchées tonna, et l'horizon ne fut en un instant, sous le jet de toutes ces gueules d'acier, qu'un cercle noir et rouge de fumée et de flammes. Les lignes boches reçurent sans broncher cette grêle d'obus, et 10 minutes après, les compagnies de première ligne s'élançaient à l'assaut. J'en fis autant à la tête de mes poilus, mais notre artillerie n'avait rien anéanti, et c'est sous le feu des mitrailleuses et des canons que nous avons débouché. En 5 minutes, j'ai eu 8 poilus de tués et 11 blessés. La 4e compagnie et la 8e, qui étaient parties les premières, étaient entièrement fauchées, les officiers tués dans les réseaux de fil de fer. Quelques-uns entrèrent dans la tranchée allemande, abandonnée un instant par ses défenseurs. La 7e compagnie, avec mon ami Dastis, voulut déboucher. Dastis tomba, la cuisse fracassée. Et comme il était impossible d'avancer, nous dûmes rester là, derrière des parapets insuffisants, sur lesquels s'aplatissaient les balles et éclataient les obus. Un de mes sergents, le cerveau troué, tombe à côté de moi, m'éclaboussant de cervelle et de sang. Nous avons tiré notre tour, n'osant trop le faire, dans la crainte d'achever les nôtres. C'était horrible. Le soleil baissait, le ciel s'embrumait, des gouttes d'eau commençaient à tomber. La tranchée était un cirque de sang. Le bombardement recommença. Nos 75, hélas, achevèrent nos blessés. On devait s'élancer de nouveau pour prendre un entonnoir produit par l'explosion d'une mine et où les boches s'installaient, mais la nuit, une nuit sombre et épaisse comme on en voit qu'ici, tomba sur ce champ sinistre qui illuminait par instants les obus allemands ou leurs fusées pleuvant sur nos lignes. Nous craignions une contre-attaque et à chaque minute, je profitais de l'éclair d'une de ces fusées pour jeter par-dessus le parapet un coup d'œil rapide salué par les balles ennemies. Et dans tout cela, les râles des blessés, les appels aux brancardiers et la pluie froide qui nous gelait. On renonça à l'attaque ce jour-là, et vers 2 heures du matin, par un boyau plein de boue sanglante, au milieu des blessés et des morts, je ramenais mon peloton au village. D'autres compagnies nous remplaçaient. L'attaque devait recommencer le lendemain à 5 heures du soir. L'adjudant était tué, ce pauvre Debarge dont je t'ai parlé et qui avait voulu marcher malgré qu'il fût malade. 2 sergents, un caporal et mon brave Philippe, qui m'était si dévoué, restaient parmi nos morts sur cette plaine boueuse et détrempée. L'attaque du lendemain n'eut pas lieu. Il fallait une autre préparation d'artillerie plus longue et de gros obus. Nous n'allâmes au repos que 2 jours après. Quelles heures nous avons vécues! Le capitaine Mignon blessé et disparu, plusieurs officiers tués, d'autres blessés, et ça n'a pas suffi. Le 27, on a réattaqué, après une préparation plus sérieuse d'artillerie, et cette fois, on a pris les tranchées. Mais les 3 compagnies qui étaient entrées ont été décimées, et le soir, contre-attaquées par 3 régiments, elles devaient évacuer la tranchée en y laissant quantité de blessés et de morts. J'étais en réserve au village lors de cette 2e expédition, et nous devions recommencer le lendemain, mais tout de même, on a fini par reconnaître que c'était idiot et qu'il n'y avait qu'à attendre. C'est par là qu'on aurait dû commencer. En attendant, dans cette deuxième affaire, trois de mes bons camarades lieutenants ont été tués. Au reste, cette deuxième attaque était vouée d'avance à l'insuccès. Un prisonnier boche a déclaré qu'un déserteur tambour avait vendu la mèche la veille. C'est pour cela que le village que nous occupions a été toute la journée écrasé de marmites de tous les calibres, qui n'ont fait d'ailleurs que deux ou trois victimes. On n'a pas voulu laisser, comme la première fois, les blessés mourir entre les lignes. Et encore que la sauvagerie des boches fût bien connue, le major Mistralet, un brave petit médecin, s'offrit, hier en plein jour, à aller les ramasser. Ce fut pour nous une minute sacrément angoissante. Allait-il tirer sur lui et sur les brancardiers? Tant pis, il hissa le drapeau de la Croix-Rouge et, armé de son seul brassard de médecin, se leva sur la tranchée. Je ne respirais plus. Ce brave petit docteur est un si gentil et charmant camarade. Les boches furent très correctes. Ils se levèrent au-dessus du parapet et l'on se regarda de part et d'autre. Mistralet s'avançait, suivi de ses hommes, et arriva près du blessé, à 6 mètres des Allemands, qu'il salua militairement, comme au grand siècle, puis ramassa son blessé, et pendant que les brancardiers l'emportaient, il resalua encore, comme la première fois, les ennemis qui lui rendirent son salut. Il rentra dans nos lignes. Les têtes disparurent derrière les parapets. Le silence régna de nouveau, et plus un coup de fusil ne fut tiré dans la journée. Maintenant tout est calme, les mitrailleuses ne tirent pas, on n'entend plus le sifflement des balles, c'est l'ancienne vie qui reprend.